Des bonnes nouvelles dans ce journal du côté de Taupo, des nouvelles moins bonnes en revanche sur le front social. On parlera aussi de foot et d'une grande soirée de fêtes et de culture. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité ce midi, Charlie, c'est bien sûr les JO. On sort d'une très belle matinée en passe de Hawaï, Charlie.
Et oui, alors au moment où on vous parle, il pleut des trombes sur Taupo et le vent a tourné. La compétition vient donc d'être interrompue. Mais jusque-là, la matinée était très belle du côté des résultats, mais aussi du côté de la météo. Les gros tubes de Taupo étaient bien au rendez-vous. Les organisateurs avaient quelques doutes dimanche, mais le vent, pendant la matinée en tout cas, n'a pas perturbé le plan d'eau où les surfeurs et téléspectateurs de toute la planète ont pu profiter de vagues de 2,50 m à 3 m et même des séries dépassant les 4 m du double overhead, comme on dit dans le jargon du surf, dans lequel sont organisés donc les huitièmes de finale de la compétition ce lundi. Alors on vous le disait hier, tous les Français, dont bien sûr les deux Polynésiens, étaient qualifiés. C'était la bonne nouvelle du week-end. Et ce matin, c'était les Tannais qui ont donné du tube. Valdemar Delage, vous êtes sur place à Taupo.
Et oui, à commencer donc par le local de l'étape, Kaolivas, qui était opposé à Griffin Colapinto, numéro 2 mondial. Et l'Américain, il fêtait ses 26 ans aujourd'hui. Hein. Il espérait sans doute une toute autre issue pour son anniversaire, car il est tombé sur un os en la personne du Tahitien qui lui a passé de cadeau, hein, comme il l'a déclaré en jeune mixte. Je veux dire que Kaolivas était porté par le public. Il était surtout animé par un esprit de revanche, puisqu'il avait buté contre ce même Colapinto au premier tour. Alors après un premier échange de tubes, l'Américain a pris un premier avantage, mais Kaolivas s'est montré patient. Il a attendu plus de 15 minutes après sa première vague. Il s'est finalement élancé à 5 minutes de la fin pour s'offrir une bombe et célébrer les bras levés à la sortie de ce tube. Une célébration donc face à sa famille qu'il regardait depuis les bateaux. Il s'est dit heureux devant son public et sur son spot. Un tour de plus donc pour Kaolivas.
Merci Valdemar Delage qui assistait d'abord à ce hit entre Kaolivas et Griffin Colapinto. Et puis il fallait rester branché sur la compétition après cette série, puisqu'un autre Français était dans la suivante, Valdemar.
Oui, c'est Johan Duru, bien sûr, le capitaine français qui a fait le show hein, ce matin. Il a décroché le meilleur total de la matinée, 18.13, avec deux gros tubes notés à plus de 9. Et ce, face au redoutable Mexicain Alan Cleland, lui aussi de hauteur d'une performance relevée. Alors au prochain tour, Johan Duru retrouvera Kaolivas pour une place en demi-finale. Mais de regret, ce mauvais tirage au sort entre deux amis, mais ils promettent une belle série dont le vainqueur, selon Johan Duru, ira au bout de la compétition. Une ambition qui peut justifier aussi par une partie de tableau plus favorable pour les Français, puisque le vainqueur de leur duel retrouvera en demi soit le Péruvien Correa, soit le Japonais Inaba, des adversaires potentiels qui, à l'image des deux Français, évoluent dans une division inférieure au Championship Tour, Charlie.
Voilà, duel franco-français en quart, donc, et certitude qu'il y aura un bleu en demi-finale. Tout le Fénois est bien sûr derrière l'enfant du pays et de Vairao, Kaolivas, bien sûr, mais ce ne sera pas le seul duel à suivre de près, Valdemar.
Oui, alors on en a parlé, Kaolivas contre Johan Duru pour le premier quart de finale, celui entre le Péruvien Correa et le Japonais Inaba. Mais il y a aussi donc deux autres manches qui verront s'opposer d'une part deux Brésiliens, Gabriel Medina et Joao Chianca, tous les deux très en forme ce matin. Et puis deux Australiens, les numéros 3 et 5 mondiaux, Jack Robinson et Ethan Ewing. En revanche, le Sud-Africain Jordi Snick, 7e mondial, le Brésilien Philippe Toledo, qui est double champion du monde sortant, et aussi le numéro 1 mondial, John Florence, sont tous passés à la trappe. Même issue pour le populaire marocain Ramzi Boukiam, Charlie.
Voilà, il faudra toutefois patienter avant de suivre ces quarts de finale, puisque, on l'a dit, la compétition vient d'être interrompue. Les femmes n'ont donc pas pu se jeter à l'eau pour leur huitième de finale. On attendait notamment Vahiné Firo et Joanne Defay qui doivent s'affronter pour une place en quart. C'est peu probable pour aujourd'hui. Et demain, il va falloir désormais scruter les prévisions pour la fin de semaine. On vous tiendra bien sûr au courant sur les antennes de Radio 1 et Tiala FM, et puis bien sûr sur notre site radio1.pf et nos pages Facebook. En attendant, les surfeurs français, comme les autres d'ailleurs, sont rentrés au chaud ou au frais, c'est au choix. On les a tout de même interviewés. Valdemar Delage les a tout de même interviewés à leur sortie de l'eau. Johan Duru venait par exemple d'apprendre qu'il devait affronter Kaolivas en quart de finale. Écoutez.
Je viens d'avoir la nouvelle, j'étais contre Kaoli. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. On est devenus super proches depuis ces dernières années. Et en tout cas, on va faire une belle série et on va bien représenter la France. Ce qui est sûr, c'est que ça sera une belle série et celui qui va passer, il ira jusqu'au bout.
Voilà, Johan Duru, landais de 35 ans, qui a une très longue carrière derrière lui. Il a passé trois saisons entre 2017 et 2019 dans cette élite mondiale du Championship Tour WSL que Kaoli Vast essaie depuis longtemps d'intégrer. Et Johan Duru qui a fait une grosse impression ce matin. Valdemar Delage, je vous en parlais. Sa note finale 18-13, c'est tout simplement le meilleur score de tous les huitièmes de finale, devant Joao Tchanka, devant Ethan Ewing par exemple. Kaoli Vast, avec son 15-10, n'est pas en reste, d'autant qu'il gagne son hit grâce à la meilleure vague de la série, un jeu d'observation, de patience et aussi un jeu de morale. Écoutez,
au bout d'un moment, tu vas tomber dans une série où tu auras un bon score et tu vas devoir attendre, être patient. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais pour rester aussi concentré et être prêt quand la prochaine va arriver pour pas tomber? Moi, j'ai quand même la chance de pouvoir juste me retourner et de voir que j'ai de la chance d'être là à Tahiti, à la maison, avec mon petit frère qui est dans le bateau, Jérémy au coach et les montagnes. Et ça me rend heureux et ça me refocus. Et c'est quelque chose de spécial et c'est pour ça que voilà, j'en ai bien profité.
Voilà, Kaoli Vast qui sait qu'il aura des soutiens pour ce quart de finale pas encore daté. La Polynésie devra aussi donner de la voix pour soutenir Vaine Fierro qui, on l'a dit, est aligné contre Joanne Defay. Un autre duel franco-français ou en tout cas polynéso-français. On vous tient bien sûr au courant de la date et l'heure de ce duel sur radio1.pf.
La compétition suit son cours mais son grand final se prépare déjà. Charlie.
Et oui, le pays n'avait pas beaucoup communiqué dessus jusqu'à présent mais il a chargé depuis de longs mois l'Union Polynésienne pour la Jeunesse d'organiser un événement d'ampleur pour la fin de la période olympique à Tahiti, c'est-à-dire le 4 août. L'UPJ a donc présenté ce matin son Hiva Veve Areareha qui sera organisé sur le front de mer de Papeete ce dimanche soir en partenariat avec la mairie de Papeete justement. Des chars, des groupes de danse, des associations d'une dizaine de communes des îles du Vent vont défiler en musique. On parle de plus de 2000 participants pour 5 à 8000 spectateurs. Alors bien sûr, cela rappelle le grand carnaval que la capitale organisait entre 1997 et 2003. Ça n'est pas exactement la même chose, relève Rémi Briand, le directeur général des services de Papeete, mais la mairie réfléchit tout de même à relancer l'événement. Tout est une question de budget.
Ça coûte cher quand même, hein. C'est un événement qui peut coûter cher, qui implique beaucoup d'énergie. Il faut des costumes, il faut trouver du monde, des gens qui veulent bien s'investir, des gens qui vont préparer les chorégraphies. Enfin, il faut des couturières, il faut mobiliser. Enfin voilà, c'est quand même, ça mobilise du monde. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est ça aussi qui crée du lien. Et nous, c'est ce qu'il faut en tout cas. Hein. Et donc là, le pays a mis les moyens. Donc on a aujourd'hui un carnaval. Et on espère que ça va être à la hauteur des Jeux Olympiques. On voit ce qui se passe ailleurs et à Paris notamment, on a envie de briller également.
Voilà, briller face au monde, même si officiellement ce Hiva Veve Areareha ne fait pas partie du programme des JO. Ça n'a pas empêché tous les acteurs de beaucoup s'impliquer dans ce projet. Du côté du pays, les réunions ont commencé dès le mois de novembre.
La direction de l'équipement qui est impliquée, il y a le port autonome, pour l'accès à l'électricité, voilà. Ensuite, pour les communes, elles sont en préparation depuis le mois de juin. Donc bon, après c'est la période de juillet, c'est une période où il y a les Heiva Mataina, où il y a les Jeux interquartiers et compagnie. Et donc elles ont essayé de trouver à un moment donné un mixte pour que toutes ces organisations-là aient une place particulière dans le mois de juillet, en tout cas dans la vie des communes. Et ça a donné un très bon résultat puisqu'en réalité ça a permis aux jeunes d'être occupés tout le mois de juillet.
Voilà, Tao Ahere Maono, le directeur général de l'UPJ qui promet une grande fête sur le thème à la fois des légendes de chaque commune et des sports traditionnels du Fénois. Rendez-vous donc le dimanche 4 août en fin de journée, ce sera sur le boulevard Pomaré, le front de mer de Papeete. Donc en attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité des JO côté sportif et côté animation sur radio1.pf.
Et on vous en parlait vendredi, une invitée de marque est au Fénois pour ces Jeux, Charlie.
Et oui, à défaut d'avoir réussi à attirer des leaders régionaux, les JO de Tahiti ont fait venir une ministre. Il s'agit de Marie Guévenoux, déléguée aux Outre-mer dans le gouvernement de Gabriel Attal. Alors même si ce gouvernement est en gestion d'affaires courantes, en attendant un nouveau Premier ministre, elle avait d'ailleurs précisé à son arrivée vendredi qu'elle n'était en représentation qu'en représentation de l'exécutif parisien, à la demande expresse du chef de l'État Emmanuel Macron. Et apparemment, elle ne regrette pas de rater les Jeux de Paris pour en profiter ici.
Je suis triste pour mes collègues. Donc voilà, non, j'ai beaucoup de chance d'être ici. C'est un moment extraordinaire d'être ici en Polynésie, de pouvoir à la fois découvrir Tahiti. Moi, c'est la première fois que je viens. Le découvrir dans des conditions formidables où à la fois l'ensemble de ceux qui permettent la réussite des Jeux, que ce soit, j'ai dit, les forces de sécurité, mais aussi Paris 2024 avec toute l'organisation et toute la population, la ferveur aussi populaire autour des surfeurs et autour en particulier de nos surfeurs français, de Vainé évidemment et de Kaoli.
Voilà, Marie Guévenoux qui, depuis vendredi, est allée tous les jours à Théaoupo en enchaînant les visites, village olympique, centre technique, fan zone, logement des athlètes sur l'Arimiti, marché artisanal de Veirao et puis bien sûr dispositif de sécurité à terre comme en mer. Ce lundi, la ministre a préféré rester toutefois du côté de la zone urbaine avec une visite du RSMA à Aroué ce matin et une réception organisée ce soir au Haut-Saria pour célébrer l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'autre actualité du moment, elle est moins festif, ce sont ces mouvements sociaux qui s'enracinent.
Et oui, ADT, OPT et pourquoi pas les sociétés de sûreté de Tahiti-Fa, voire les fonctionnaires d'État. On vous le disait ce matin, la situation sociale déjà tendue la semaine dernière peut dégénérer cette semaine si les diverses négociations n'aboutissent pas. Elles sont en cours. D'abord à l'OPT où une réunion a débuté entre l'intersyndicale et la direction à 8h30 ce matin. Les deux grandes parties ne s'étaient plus vues directement depuis le début de la grève jeudi, mais peuvent s'appuyer sur des ébauches de protocoles déjà rédigés les jours précédents et qui ont fait l'objet d'échanges à distance de vendredi, samedi puis dimanche. Difficile de savoir ce qu'il se dit dans la salle de réunion du siège de l'office, ici à Faréouté, mais sur le piquet de grève, les agents, eux, sont dans l'attente. Ils se disent toujours prêts à poursuivre la mobilisation et espèrent tout de même pouvoir reprendre le travail au plus vite, car ils le savent, la fermeture des bureaux de poste, principal effet visible de cette grève, pèse sur beaucoup d'usagers, notamment dans les îles où certains espéraient pouvoir faire leur retrait d'argent au guichet en cette fin de mois. Les précisions du délégué syndical CSIP, écoutez.
Il faut que la situation se débloque. L'objectif, c'est de retourner au travail, c'est de servir la population parce qu'ils sont en attente. Il ne faut pas oublier que la semaine dernière, il y a tout ce qui est Moniruo qui a été payé. Il y a encore aujourd'hui, il y a les allocations. Enfin, il faut servir la population. Ça, c'est notre job. Après, si jamais il y a les téléphones qui tombent en panne, ben il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présent.
Voilà, un représentant du personnel qui pointe aussi du doigt le pays. Il s'agit de Moana Piatarioe, qui était donc au micro de Vaitiare Pereira. Il évoque quelques points bloquants, notamment le gel des acquis sociaux mal calculés. Selon lui, il parle aussi du nouveau système d'information NOAA, qui à l'entendre n'est pas du tout efficace ni pratique, en plus d'avoir contribué à plomber les finances de l'office. NOAA, c'est un des points durs de cette négociation.
Le SI NOAA dont on parle, il vient nous proposer de faire de la communication avec la clientèle, de renforcer la sécurité. Pour nous, ça, c'est du réchauffé. Dans le protocole d'accord de 2021 figurent déjà ces mesures. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une alternative. On n'est pas en train de demander de